Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes, et vous êtes autour de l'émission Parler pour ne rien taire avec Olivier Lestis, Dominique Desmichel, et aujourd'hui nous avons la grande chance d'accueillir Simon qui va nous prêter son concours, ses idées et aussi toutes ses réflexions, ses lectures et son expérience. Alors la dernière fois, autour de l'imaginaire, nous avions un petit peu travaillé la question de la dimension positive, vivante, créatrice de l'imaginaire. Nous avions vu aussi les ombres de l'imaginaire, nous avions vu aussi ses limites, et à la fin nous avions questionné un peu l'idée de savoir s'il y aurait, comme on définit, une éthique de la relation, une éthique professionnelle, une éthique de la pensée, une éthique de l'action. On s'est demandé si on pouvait réfléchir sur la question « y a-t-il, au fond, une sorte d'éthique de l'imaginaire ?» Éthique, j'entendais ici, dans le sens d'une tension entre deux impératifs contradictoires, deux impératifs opposés. Évidemment, il ne s'agit pas d'interroger la question de savoir si l'imaginaire en lui-même est éthique, mais plutôt de se dire, par rapport à notre imaginaire, qu'il soit individuel ou qu'il soit collectif, est-ce qu'il y a une façon de l'utiliser qui nécessite une réflexion éthique? Je donne un tout petit exemple qui est tout à fait minimaliste et volontairement extrêmement concret. La publicité utilise beaucoup notre imaginaire et on sait bien que la publicité nous pousse à consommer. Elle façonne en quelque sorte notre désir. Et nous avons bien conscience, surtout dans notre monde contemporain, que cette utilisation et ce détournement du désir via l'imaginaire que nous propose la publicité ne se fait pas pour la santé de la planète et probablement aussi la santé des humains, en tout cas de leur psychisme, de leur âme et même d'ailleurs de leur corps. Alors Olivier, j'ai envie de me tourner peut-être d'abord vers toi, en disant, est-ce que, toi, cette question, au fond, de la place de l'imaginaire, de la façon dont on peut à la fois s'en servir, ou positivement ou négativement, est-ce que tu as quelque chose à en dire? Et Simon, j'ai envie de te reposer la question juste après.
Ton exemple de la publicité est particulièrement éloquent, mais juste en préalable, je voudrais rappeler ce qu'on a dit déjà, c'est-à-dire que l'imaginaire, on ne peut pas l'isoler comme quelque chose de complètement fonctionnel en soi. L'imaginaire, ça fonctionne parce qu'il y a aussi l'univers symbolique, parce qu'il y a aussi la question du réel, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, mais l'imaginaire est ce qui fabrique notre monde, on l'a dit, fabrique notre vie. Or, la publicité a tendance à faire du monde un monde d'objets, un monde d'objets saisissables, un nombre d'objets désirables, un nombre d'objets qu'on peut justement acquérir. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui place une espèce d'utopie ou une espèce d'objectif dans l'absolu, c'est quelque chose qui très concrètement vient saturer, je reprends le terme que tu utilises souvent, vient saturer le désir parce qu'il vient sans arrêt. Le monde devient proposition permanente de saturation du désir, c'est-à-dire de la mort du désir, en fait. On cherche sans arrêt à l'éteindre. C'est un petit peu comme si la publicité était une espèce de grand pompier qui vient éteindre le feu du désir à chaque fois. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et effectivement, c'est très problématique puisque on fait du monde un monde d'objets, c'est-à-dire qu'on ne laisse aucune place à l'autre qui, lui aussi, peut être désirant. Un objet ne désire pas en soi. Et du coup, il y a une espèce d'inversion qui se produit, c'est-à-dire que nous pensons posséder les objets, et il est probable qu'en fait les objets nous possèdent. Nous possèdent au sens de la possession satanique presque, hein, c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ils nous envahissent et ils font de nous des espèces de machines à consommer, de machines à détruire, et qui d'ailleurs dans les cas les plus extrêmes, parce que là on voit tout de suite pointer l'idée d'addiction dans les situations les plus extrêmes. On va parler de drogue, on va parler de choses comme ça, qui sont en fait des objets qui détruisent la personne qui les consomme, justement.
Les objets nous transforment en objets de nos désirs.
Absolument, oui.
Simon, par rapport à cette question-là, est-ce que toi, ça t'évoque des choses particulières ?
Oui, je dirais que l'imaginaire, avec la publicité, mais pas seulement, je pense aussi à l'actualité, à la façon dont elle est reproduite par les médias, par exemple, ça ouvre la porte à l'illusion. Et l'illusion, pour le coup, c'est certainement une part très sombre de l'imaginaire, puisque ça, c'est une réalité alternative qu'on nous propose très souvent.
Oui, des leurres.
Des leurres. Mmh. Et c'est très facile, tu parlais de drogue, c'est effectivement très facile, et voire même beaucoup plus plaisant de vivre dans un monde que nous procure la drogue et qui est complètement à côté de la plaque ou à côté de nos pompes.
Alors on pourrait dire pourtant que normalement l'imaginaire, qui est d'abord et avant tout basé sur des images, devrait être en tout cas à mille lieues de l'objet. L'image s'oppose à l'objet. Donc est-ce qu'on peut, du coup, je réintroduis la question d'introduction, est-ce qu'on peut se dire qu'il y aurait au fond une manière d'alliance avec l'imaginaire qui serait une alliance juste et vivante, a contrario d'une mésalliance avec l'imaginaire qui, où nous seraient proposés des objets et nous deviendrions les objets de cet imaginaire dans une mésalliance.
Je crois qu'en fait, ce que tu dis finalement, c'est quand tu dis éthique de l'imaginaire, en fait, il s'agit peut-être d'une éthique du manque aussi. C'est-à-dire que considérer que le manque est constitutif, c'est-à-dire qu'au bout, de toute façon, on manque toujours. Et on manque toujours de quelque chose. D'ailleurs, de toute façon, cet ultra-consumérisme qui vise sans arrêt à la satisfaction montre bien qu'il manque toujours quelque chose, puisque dès qu'on a quelque chose, ça ne nous intéresse plus beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le truc suivant. Et, l'iPhone numéro tant, etc., etc. Enfin, bon. Et c'est peut-être ça la bonne alliance, finalement, la bonne alliance de l'imaginaire et du monde, et des autres, donc, c'est peut-être cette question-là qui serait de considérer que nous sommes forcément soumis au manque. Mais ça appellera aussi, peut-être, encore une fois, à la question du réel après.
Simon, par rapport à cette articulation, justement, entre ce qui serait le manque à l'origine du désir. Il y a d'autres approches peut-être du désir, mais en tout cas, c'est celui qu'on connaît le plus. Et cet imaginaire, ça t'évoque des choses ?
Je dirais que on a de toute façon besoin, on a un besoin vital de l'imaginaire ou de la croyance. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes choses, évidemment, mais on en a un besoin vital et on a beau le jeter par la porte, il reviendra toujours par la fenêtre parce que c'est ce qui nous console de la réalité. La réalité en soi n'est pas plaisante si on prend une manière un peu tragique de l'existence. On est relativement insignifiant dans l'histoire de l'univers, que ce soit dans l'espace ou bien dans le temps. Et ça, au fond de nous, on en a quelque part conscience. Et l'imaginaire, c'est ce qui va nous consoler de ça, justement, et va nous permettre de réagir par rapport à ça, simplement de vivre. Donc c'est évidemment très important. Mais l'éthique dont tu parles serait justement peut-être à quel niveau, à quel curseur mettre l'imaginaire. Parce qu'encore une fois, il est très très facile de vivre dans son monde d'illusions, quel qu'il soit.
Alors on a pu voir lors des émissions précédentes que l'imaginaire à la fois en effet pouvait nous faire désirer l'iPhone 18 pour remplacer l'iPhone 17, je ne sais pas si ça existe, mais on va vous comprenez ce que je veux dire en tout cas, mais qu'en même temps aussi cet imaginaire c'est celui qui avait créé les mythes, et que ces mythes évidemment c'est la perspective je dirais presque cosmologique ou ontologique au fond qui vient interroger le manque, non pas de l'objet, mais de l'interrogation du côté du sens de la vie et du sens de l'existence. Alors, est-ce que, au fond, il y aurait là, dans cette approche, d'une sorte de vigilance pour nous-mêmes, de notre utilisation personnelle de l'imaginaire, à s'interroger, justement, en disant, au fond, quelle est... Alors, je mélange un tout petit peu les propos, mais quel est l'objet matériel et quel est l'objet existentiel de l'imaginaire, et est-ce qu'il n'y a pas au fond à réfléchir pour nous-mêmes à cette question-là. Quel est l'objet, dans le sens, quel est l'objectif, quelle est la finalité, mais dans une finalité à la fois consolatrice, comme tu le disais, Simon, il y a quelques minutes, mais en même temps, pas simplement qui renvoie à un accompagnement, à la consolation, ça ne vient pas de solitude, contrairement à souvent ce qu'on pense, mais dans être avec, être accompagné au fond, mais aussi une dimension prospective, voilà. Et tu as utilisé le mot de croyance, par exemple, on voit bien que les croyances se construisent sur un imaginaire, mais qu'en même temps, elles sont là pour donner du sens. Alors, qu'est-ce que vous faites, là, tous les deux, de votre imaginaire ?
Alors, c'est une grosse question, hein, mais tu parles justement d'être avec... Tu dis être avec quelqu'un d'autre. Je reviens sur cette idée de l'autre, parce qu'en fait... l'imaginaire, ça n'est pas, en effet, comme tu le disais, Simon, ça n'est pas que de la croyance. La croyance y participe et la croyance, en fait, je préférerais l'appeler la foi. Je ne fais pas référence spécialement à une religion, hein, mais le fait de la foi qui entraîne le mot de confiance, puisque la confiance, c'est l'étymologie. Voilà. La foi, c'est l'étymologie du terme de confiance. Je crois que, pour rester un tout petit peu sur le sujet de la publicité, je suis un peu lent, je reviens un peu en arrière simplement là-dessus, on est profondément toujours seul face à ce que un monde d'objets comme ça nous propose comme satisfaction permanente, etc. On est tout seul là-dedans. Et une position qui serait une position plus éthique ou un imaginaire plus approprié à la vie collective, disons, qui est quand même... l'une des grandes affaires de l'être humain, à ce que je sache, suppose justement que ce monde ne soit pas réduit à un monde d'objets. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, si on réfléchit à la question du désir, qui peut s'accrocher à tout un tas d'objets, encore une fois, hein, et qui repose dans un rapport qui est fonctionnel, dans un rapport assez étroit avec le manque, justement. Il y a quand même que, au départ, on peut se dire, mais... D'où ça vient cette affaire-là ? D'où ça vient cet imaginaire désirant en permanence ? Et peut-être qu'on peut se dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe et qui serait difficile à élaborer, difficile à penser, qui est la pulsion. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de la pulsion ? La pulsion qui a un rapport extrêmement étroit aux besoins du corps, au départ, et puis qui vise à sa propre satisfaction tout le temps. Mais... Justement, comment cette pulsion dans le monde humain se transforme non pas en recherche d'une satisfaction immédiate, je suis un prédateur, je vais trouver un petit animal plus petit que moi pour le manger et satisfaire ma pulsion de survie, par exemple, etc. Comment ça fonctionne dans le monde humain ? Et bien, simplement, à un moment, le désir se détache du besoin. C'est-à-dire que le désir peut s'adresser à tout un tas d'autres choses que ce qui va réellement satisfaire la pulsion. Et c'est pour ça que c'est toujours aussi du côté d'un leurre. D'un leurre, parce que ce qui va satisfaire le désir va pas forcément satisfaire la pulsion. Et donc la pulsion va continuer toujours à être là en permanence. Et elle est vitale. Elle est vitale de toute façon. Mais comme ça se transforme du côté du désir et du côté de l'imaginaire, ce qui vient aussi pointer et compléter peut-être le schéma, c'est l'idée... qu'un désir correspond aussi à une demande. C'est-à-dire qu'au départ, lorsqu'un enfant désire, eh ben forcément, il demande. Et il y a une très, très, très jolie phrase de Lacan, hein, je cite souvent des phrases de Lacan, mais la demande est au point où le... Enfin, je ne vais pas la citer exactement, mais quelque chose comme ça, la demande est au point où le désir se déchire du besoin. C'est-à-dire où le désir devient autre chose que la satisfaction naturelle, en quelque sorte, d'un monde très réel, et nécessairement, pour être fonctionnel, doit s'adresser à l'autre. Et non pas s'adresser simplement à un objet, ou à un autre qui serait qu'un objet. Quoi.
Peut-être que le désir des désirs, ça serait justement ce manque de sens dont tu parlais, Dominique. Par rapport au manque de sens, tu parlais des mythes aussi, tu parlais de tout ça. Et oui, finalement, c'est donner du sens à quelque chose... c'est le rôle de l'imaginaire, c'est pas compliqué du tout. Mmh. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas un sens à une chose, et on voit bien depuis 200, 300 ans qu'une révolution chasse l'autre et un sens du monde chasse l'autre. Et les sens, on le trouve assez facilement. Je peux donner 10 sens à ma vie en l'espace d'une journée. Là, on est dans le rôle de, là, on est dans le rôle aussi de l'imaginaire, j'imagine.
On est dans le rôle de l'imaginaire, j'imagine. Ouais. Au fond, c'est bien ça. Moi, je trouve que cette phrase, en fait, elle est très juste, même si elle a l'air d'être un petit peu répétitive. Alors, moi, j'ai envie de vous proposer, parce que ça me titille là depuis quelques minutes, j'ai envie de vous proposer qu'on essaye de réfléchir à deux types d'imaginaire. Je ne sais pas du tout où je vais, mais on va bien voir. Le premier, ça serait l'imaginaire amoureux. Et peut-être je vais commencer par ça, parce que l'imaginaire amoureux, c'est quand même quelque chose qui remplit beaucoup l'existence des humains. Et moi, à mon avis, ça renvoie à la question de l'altérité, justement. Mmh. Et puis la deuxième chose, ça serait l'imaginaire autour, mettons, du divin, hein, de l'image du divin. Alors, vous voyez bien qu'on est dans des questions faciles à résoudre, et chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, dans 3 minutes, vous avez la réponse. Je reprends sur l'imaginaire amoureux. On voit bien que les très grandes histoires d'amour sont toutes des histoires qui se terminent mal. Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, par exemple, et il y en a plein d'autres. Pourquoi ? Le plus souvent, c'est que c'est l'imaginaire qui va venir tenir lieu presque de réalité. Roméo sort de la pièce à la recherche de Juliette, et justement, Juliette rentre dans la pièce à ce moment-là. Et ensuite, voilà. C'est-à-dire, au fond, Roméo et Juliette sont amoureux non pas de l'autre, mais ils sont amoureux de l'amour. Ils ont d'abord et avant tout, ils sont dans leur imaginaire, il y a une belle au bois dormant, et plus ils passent leur temps à courir après cette belle au bois dormant, plus ils remplissent leur imaginaire, sauf qu'ils ne créent pas une relation amoureuse. Donc on voit bien là, ici, que ça rejoint, il me semble, ce que tu disais tout à l'heure.
Absolument.
C'est-à-dire, il faut à un certain moment qu'il y ait quelque chose qui se détache de cette pulsion amoureuse où je vais enfin trouver ma belle au bois dormant. Je dis ça parce qu'il y a 3 hommes autour du micro, c'est peut-être un petit peu suspect, mais allons-y comme ça, ma belle au bois dormant, pour rencontrer l'autre, faire l'expérience de son altérité et surtout découvrir, souvent de manière émerveillée, que c'est premièrement une épreuve, deuxièmement un grand bonheur. Voilà, c'est un peu ça. Donc j'ai un peu envie, on reviendra après là-dessus, j'ai un peu envie de vous inviter à réagir sur cet imaginaire amoureux dont on voit bien là, puisqu'on parlait autour de la question de l'éthique, que justement le confronter à quelque chose et ne pas le confondre avec la pulsion, c'est quand même une des conditions de base probablement du bonheur, non ?
Du bonheur, oui, absolument, dans la mesure où le bonheur est une construction proprement humaine aussi, parce que je ne sais pas si les animaux peuvent concevoir l'idée du bonheur. Mm-hmm. Sans doute pas l'idée. Vivre le bonheur, je ne sais pas. On voit bien qu'ils ont des satisfactions, ça c'est sûr. Mais la question du bonheur, c'est justement peut-être celle de différer la satisfaction, en quelque sorte. Sans doute. Hein, de lui donner toujours un prolongement. C'est-à-dire de ne pas être dans l'immédiateté, justement comme dans le monde d'objets dont on parlait tout à l'heure, mais d'être dans une situation, je pense, hein, où il y a toujours un peu de manque qui reste tout à fait présent pour pouvoir continuer sur ce chemin-là.
Et qui nourrit le désir.
Et voilà. Et alimenter même le désir.
Voilà. Oui, tout à fait. Malgré l'épreuve.
Oui.
Et avec aussi l'expérience.
Oui.
Un peu du bonheur.
Oui, mais le bonheur suppose que ça rate un peu la satisfaction.
Oui.
Sinon, il s'arrête.
Simon, sur cette question de l'amour, évidemment, ça paraît extrêmement complexe de répondre. Est-ce que quelque chose de l'ordre du contexte familial, du contexte de l'environnement joue parce que c'est vraiment le type de question où tout le monde en parle, mais tout le monde en met dedans ce qu'il veut y mettre. Donc à part dire, évidemment, sur la relation, le jeu et le tu, ce rapport qu'il y a, non pas entre deux individus distincts, mais le rapport entre les deux qui serait de l'ordre... De l'élan amoureux, effectivement, est-ce que Roméo et Juliette sont vraiment amoureux ? Ça pose question. Alors par rapport à ça,
l'un de l'autre,
ça pose question.
Ils sont sûrement amoureux.
Ouais, mais de l'amour, comme tu dis, effectivement. Ouais. Hein. Alors, par contre, sur l'illusion de l'amour, là, il y a beaucoup à dire. Et le philosophe Clément Rosset en parle en citant très souvent cette histoire de courte ligne de Bouberoche, me semble-t-il, qui découvre l'amant de sa femme dans son placard, dans sa chambre, et sa femme, la femme de Bouberoche, lui dit « Non, mais qu'est-ce que tu vas chercher là ? Regarde, il est dans le placard. Mais non, ce n'est pas ce que tu crois. » Et Bouberoche, finalement, « Ah oui, tu as raison, ce n'est pas ce que je crois, évidemment. » Alors que quand même son amant est en caleçon dans le placard, mais la force de l'illusion par rapport au sentiment amoureux peut être incroyablement puissante, me semble-t-il, et qui malheureusement peut-être conditionne parfois toute une vie, parce que on s'illusionne sur nos sentiments par rapport à un autre et ça met la pagaille très souvent.
Et alors est-ce que toi tu appelles l'illusion au fond une sorte d'ombre de l'imaginaire?
Ah bah,
que
c'est pour ça, oui évidemment, c'est-à-dire qu'il d'accord. s'imagine tout autre chose, alors qu'il a en face de lui, ça qui est fantastique, c'est qu'il a
l'évidence.
En face de lui l'évidence de l'arrêter, mais non. Il faut qu'il s'imagine autre chose, parce que son équilibre et son confort sont en jeu dans cette histoire-là.
Et autre question par rapport à ce que tu as dit un petit peu avant, est-ce que tu voulais dire, toi, que par rapport à l'histoire familiale, justement, que cette histoire familiale, cette solidarité familiale, les répétitions ou les différences transgénérationnelles viennent structurer l'imaginaire? Par exemple, l'imaginaire de la Belle au Bois Dormant ou du Prince Charmant.
Oui, j'imagine. Alors ça, tu seras plus à même d'y répondre,
Olivier.
Si on parle des mythes ou des contes, tu disais que lorsqu'elles mettent en scène une histoire d'amour, ça se terminait toujours mal. Pas forcément, mais en tout cas, ça ne parle jamais de bonheur.
Ouais.
Jamais de bonheur. Parce que Roméo et Juliette, on sait, ça se termine mal. Et je suis totalement d'accord avec l'analyse que tu fais. C'est pas certain qu'ils soient vraiment amoureux l'un de l'autre.
Non.
Ça, c'est... Peut-être même qu'on peut être presque certain qu'il s'agit d'autre chose.
Ils ne se sont pas rencontrés.
Ben non, jamais. Et pour les autres contes, Blanche-Neige, Cendrillon, etc., et y compris dans la version de Walt Disney, ça ne parle pas du bonheur. Même si dans les versions de Walt Disney, c'est très édulcoré, on voit bien que le bonheur, peut-être, commence éventuellement à la fin. Mais le bonheur ne concerne pas le monde du conte et le monde de la mythologie. Par contre... Le monde du conte et le monde de la mythologie, ça parle essentiellement du désir, justement. Mmh. Du désir et puis de la poursuite d'une satisfaction éventuelle de ce désir. Mais l'histoire n'en parle jamais, d'ailleurs. Pour ce qui est de Blanche-Neige ou la Belle au Bois Dormant, ça se termine par un mariage. Et on dit qu'éventuellement, ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants, mais ça, on ne le raconte pas.
Il n'y a jamais eu beaucoup d'enfants dans les contes. Ça, c'est quelque chose qui est
dans la
après,
version de Walt Disney,
mais...
si.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui,
mais même dans la version de Walt Disney, ça ne parle pourtant pas du bonheur.
Ça ne parle... Si on le prend sur le plan symbolique, je ferai vraiment une grande différence entre le mythe et le conte. Parce que le mythe, en effet, pose une question et dit quelque chose autour des ombres de la question posée. Tandis que le conte, à mon avis, apporte une solution. Il apporte, voilà, par exemple, dans l'histoire... de Blanche-Neige, c'est la question de Blanche-Neige qui arrive à sortir d'une mère perverse. Et ce qui est intéressant à la fin du conte, c'est qu'elle rencontre un prince qui, lui, et ça rejoint ta remarque de tout à l'heure, Simon, hein, le prince, lui, il a un papa et une maman. C'est ça qui est très, très important. Donc, elle ne va pas juste trouver son prince. Elle va trouver une personnalité masculine qui, lui, s'est inscrite dans une filiation qui a l'air d'être relativement amoureuse, ou en tout cas au moins harmonieuse. Voilà. Et c'est ça qui va changer. Alors que Blanche-Neige, elle a une mère perverse et qui a une immense blessure narcissique, et elle a un papa garde-chasse qui est totalement absent. Et castré, on pourrait dire, pour faire un tout petit peu court. Alors, on essaye de se dire, et alors l'imaginaire du côté du divin, ça donne quoi là? La question est facile, allez-y.
On peut dire ce qu'on veut sur le divin. On peut effectivement parler de la croyance, en tant que née de l'imaginaire. On peut tout dire là-dessus. Il n'empêche que ceux qui parlent du divin, on ne parle pas jamais en termes d'imaginaire, mais en termes d'expérience.
Oui.
Et l'expérience, pour eux, c'est quelque chose de bien réel. C'est pas de l'imaginaire, c'est de l'expérience. C'est du concret presque. Alors ouais. À partir de là, on peut plus argumenter.
Oui, je trouve que c'est une remarque intéressante, même si probablement les gens qui ont fait réellement l'expérience du divin ne sont pas si nombreux que ça.
Oh, non, je crois qu'ils sont très nombreux. Me semble-t-il, après, ils n'ont pas forcément entendu dû leur parler dans la tête, mais pour eux, c'est une véritable expérience sensitive, du sensible qui s'est transformé.
Olivier ?
Ouais, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu viens de dire, Simon, c'est une expérience concrète très réelle. Et en fait, j'ai plutôt l'habitude de distinguer énormément les deux termes de concret et de réel, puisque pour le concret, c'est quelque chose qui est une construction et donc en propre appartient à l'imaginaire aussi. Par contre, relativement au divin, ça, c'est une très grande question. Sans doute la question de la limite de ce qu'on peut concevoir, en tout cas Kant le disait un petit peu comme ça, par exemple. Et puis, dans un autre cadre d'émission, on a reçu, pour fêter les 30 ans de la radio, un certain nombre de théologiens de différentes religions. Et l'un d'entre eux nous a dit quelque chose d'assez étonnant, enfin qui m'a beaucoup étonné, qui est quelque chose comme « Dieu est un peut-être ».
C'est Dieu, l'étymologie de « elle », du suffixe « elle » qu'on voit dans Emmanuel, Michel, Gabriel, etc. Ouais. Voilà, l'étymologie, c'est « elle », ça veut dire « peut-être ».
Ce que je veux dire, c'est quand on commence à y réfléchir, effectivement, pour tous les philosophes y ont réfléchi, donc ça peut être un « peut-être », ça peut être plein de choses. Mais là on n'arrive à rien, finalement. Enfin, on n'arrive à rien. On arrive à ce « peut-être », à ce « tout ». Face à ça, il y a ceux qui en ont fait l'expérience, justement.
Oui, alors ça, je ne sais pas, mais en tout cas, quand on dit Dieu est un peut-être, Dieu est une question, Dieu est une énigme, c'est intéressant aussi. Je pense que c'est pas la fin de l'affaire quand on dit ça. Au contraire, quand on pose une question, c'est le début, c'est l'ouverture d'une réflexion éventuellement. Et en fait, je pense que Dieu est à la place de l'autre, mais de l'autre radical, c'est-à-dire celui qu'on ne peut pas atteindre. Alors, on peut en faire une divinité omnisciente, omnipotente, pourquoi pas, mais on peut aussi le considérer comme tel, simplement comme une question, parce que croire, c'est pas savoir. Donc la croyance, c'est pas la science. Enfin, c'est pas, d'ailleurs, si, la science peut être une croyance aussi, c'est, la croyance n'est pas un savoir absolu, n'est pas la vérité. Avoir la foi, c'est pas détenir la vérité.
Non, bien sûr.
Voilà. C'est quelque chose de beaucoup plus ouvert potentiellement que ça. Et à partir de là, on peut aussi dire que Dieu, c'est l'idée même du manque. C'est-à-dire l'idée même de cette espèce de vide aspirant qui fait qu'on continue dans la vie à avancer, qu'on continue à élaborer, qu'on continue à imaginer, mais qu'il y a toujours ce point totalement inaccessible, cette énigme complète qui est celle simplement... de l'être, quoi.
Dans les grandes figures littéraires, il me semble, qui ont parlé de l'imaginaire, certains auditeurs connaissent sûrement Bachelard, qui a travaillé autour de l'eau, du feu, etc., qui a bien dit combien cet imaginaire était omniprésent dans notre vie individuelle, dans notre vie psychique, et combien cet imaginaire donnait une forme de dignité, au fond, à notre existence, avec un contenu symbolique, un contenu onirique, un contenu poétique, un contenu ontologique, il me semble. Et puis, il y a aussi Gilbert Durand qui a travaillé sur les structures de l'imaginaire, montrant qu'il y avait, au fond, une espèce de topologie qu'on pouvait faire de cet imaginaire, avec ses règles, avec ses archétypes, avec ses symboles, qu'on pouvait essayer de déchiffrer. Et puis, il y a aussi Henri Corbin, qui me semble rejoint ce qu'on vient de dire ici, lui qui a appelé « imaginal » une sorte d'imaginaire qui transcenderait au fond, l'imaginaire, qui serait comme une sorte de souffle, comme une sorte de vision du monde, pas simplement du côté de la croyance, mais au fond comme appel au divin. Et alors, du coup, j'interroge ce que tu disais, Simon, tout à l'heure à propos de cette expérience. Hein. J'ai fait l'expérience du divin. Est-ce que là, on est aussi dans une modalité particulière de déploiement de l'imaginaire que, évidemment, Henri Corbin aurait envie d'appeler l'imaginal?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne l'ai pas fait, l'expérience, donc je ne peux pas répondre à leur place. Mais évidemment, de l'extérieur, on peut dire, pour eux, c'est quelque chose de sensible et de réel, mais qui dit effectivement que ce n'est pas leur imaginaire qui leur a fait croire ça. La question ne se pose pas en ce terme-là. La question se pose que, par rapport à eux, ben voilà, l'affaire est close.
C'est-à-dire, ce que je voudrais dire, au fond, puisqu'on est là en train d'essayer de réfléchir sur une éthique de l'imaginaire, c'est est-ce qu'il y aurait, au fond, une sorte d'imaginaire qui pourrait être autonome, visionnaire, presque quasi indépendant du sujet, de sa subjectivité? Au fond, est-ce qu'on peut penser un imaginaire presque transpersonnel?
Ouais,
c'est la question, à mon avis, que pose Henri Corbin du côté de l'imaginal.
Oui. c'est-à-dire un imaginaire complètement partagé.
Qui pourrait être presque transtemporel, transpersonnel, transculturel. Hein, comme si, parce qu'on voit bien, par exemple, que dans l'imaginaire créatif du côté des religions, il y a plein de points communs. Alors, est-ce qu'il y aurait un imaginaire transcendant ? C'est presque, j'aurais envie de poser la question comme ça.
C'est presque une manière de dire un imaginaire véritable. C'est presque l'idée de dire que ces imaginaires-là seraient issus d'une vérité transcendante, cette fois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Mais là, on retombe exactement au même endroit, non ? D'une certaine façon, c'est-à-dire que il y a sûrement une vérité, il y a sûrement un réel, mais est-ce que nous sommes, nous, équipés, dotés, est-ce que nous avons la possibilité de connaître ça, quoi ?
On fait une petite pause autour de cette question qui, finalement, n'est peut-être pas tout à fait aussi simple que ça.
Non.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Vous êtes toujours à l'écoute de Parler pour ne rien taire sur Radio Grand Ciel, en compagnie de Dominique Desmichel, de Simon Martin et d'Olivier Lestis. Alors on a, juste avant la pause, commencé à aborder un sujet extrêmement difficile, qui est celui d'une vérité possible au travers d'un imaginaire qu'on pourrait partager, notamment parce qu'on sait bien que dans à peu près toutes les civilisations humaines, on retrouve des points d'appui communs. Alors, est-ce que c'est ce qu'on peut dire comme étant le réel, encore une fois ? Moi, j'aime bien ce terme de réel. Je sais qu'on peut l'utiliser différemment, mais le réel et le divin, pour moi, sont des choses qui sont très très proches, au sens où ce serait quelque chose, effectivement, à quoi nous n'avons pas accès. Mais nous n'arrêtons pas, en même temps, de construire sur cette espèce d'impossible-là. C'est-à-dire que c'est décider d'une vérité. Alors, ça pourrait être très confortable d'habiter une vérité, d'être absolument convaincu d'une vérité, mais on voit les désastres que ça provoque à chaque fois, à peu près partout. Donc, on voit bien aussi que de prétendre à une vérité est parfaitement dysfonctionnel, ou en tout cas extrêmement dangereux pour ceux qui ne la partageraient pas. Donc, et qu'est-ce que c'est qu'une vérité qu'on ne partagerait pas, qu'on ne pourrait pas partager? Est-ce que ça reste une vérité? Enfin bon, ce savoir, en tout cas, sur une vérité révélée qui serait constituée, qui ne serait pas énigmatique, qui serait pleine et entière, me paraît en tout cas inaccessible, voire même, on a dit le mot tout à l'heure, mais mortifère, puisque c'est ce que, notamment, Hegel pouvait désigner comme la fin de l'histoire. Mais la fin de l'histoire, quand on parle de fin de l'histoire, c'est quand même quelque chose de pas extrêmement joyeux, potentiellement, même si Hegel n'en parlait pas comme d'une terminaison et après il n'y a plus rien, mais comme d'un moment où, après, la pensée n'évolue plus. C'est-à-dire qu'elle aurait fait le tour de la question, la pensée saisirait complètement toutes les données du réel et toutes les données de la vérité. Bon, je ne suis pas un spécialiste du philosophe, mais c'est en résumé quelque chose comme ça, en tout cas qu'on peut en comprendre en première lecture. Mais sur une question comme celle-là, je ne suis pas sûr que l'imaginaire puisse vraiment le résoudre. À chaque fois que l'imaginaire se développe, à chaque fois que l'imaginaire s'étend, à chaque fois que, par exemple, de nouvelles connaissances scientifiques apparaissent, on s'aperçoit que ça ne fait guère que reculer l'énigme d'un cran, mais l'énigme reste tout aussi pleine, tout aussi entière.
Ça la recule d'un cran, effectivement, mais ça me fait penser à cette question par rapport au réel et peut-être à l'imaginaire. C'est-à-dire que toutes ces philosophies, il n'y a pas que ça, mais il y en a quand même beaucoup, pour qui le réel n'est pas suffisant. Et donc, il y a toujours un arrière-monde, il y a toujours un arrière-plan. Chez Heidegger, il y a l'être et puis les temps, enfin, etc. Et chez Platon, ça démarrerait de Platon. Alors que, de l'autre côté, on pourrait se dire que le réel est tout à fait suffisant, que ce que j'ai sous les yeux est tout à fait suffisant, ce qui n'a rien à voir avec du matérialisme ou du rationalisme, d'ailleurs. Hein, parce que, comme tu le disais, le réel et l'idée de Dieu sont très proches à un moment donné, parce qu'on est incapable de définir ce qu'est le réel. Mais en tout cas, de dire les choses sont comme elles sont. Les choses sont telles qu'elles sont et nous n'avons pas besoin d'arrière-monde, nous n'avons pas besoin d'une autre idée pour supporter ce réel et cette existence-là.
Est-ce que tu voudrais dire qu'on pourrait presque se passer de l'imaginaire ?
Non, probablement pas. On peut pas se passer de l'imaginaire, mais en tout cas, de l'imaginaire à ce niveau-là de perception de l'existence et du sens de l'existence, oui, on pourrait s'en passer, oui.
C'est-à-dire comme un creux, comme un vide qui reste constitutif, toujours une limite, quelque chose de toujours indépassable.
Quelque chose comme le réel est ce qu'il est, et je n'ai pas besoin de m'imaginer un arrière-monde pour expliquer ce qui est, puisque ce qui est, et cet arrière-monde qui est inventé ou imaginé, ou pensé par les philosophes, est une manière de rendre le réel plus réel. Mais le réel n'a pas besoin d'être rendu plus réel, il est ce qu'il est.
Donc est-ce que ça voudrait dire que la signification de l'existence appartient à l'existence? Elle serait comme une essence. Et que finalement, notre subjectivité, notre désir, à partir de notre imaginaire, de donner une perspective, serait une illusion? Ou en tout cas qu'on pourrait s'en passer?
C'est-à-dire que le réel se suffit à lui-même. Si on entend le réel, si on y réfléchit un petit peu, c'est-à-dire comme quelque chose qui est indéfinissable, où l'essence des choses est indéfinissable.
Il l'a dit d'ailleurs, ça. Il l'a dit, ça, le réel.
Il nous le dit tout le temps.
Moïse au Sinaï, lorsque Dieu s'adresse à lui et qu'il lui demande qui il est, sa réponse c'est « Je suis celui qui est ».
Exactement.
Cette phrase est très très énigmatique. Hein.
Oui,
je suis
évidemment.
Celui qui suis, ou je suis celui qui sera, ou je serai celui que je suis. C'est
énigmatique aussi.
C'est très très très.
C'est le signe que c'est le réel peut-être hein, qui parle.
Peut-être, oui, peut-être.
Alors, le réel est énigmatique et singulier de toutes les manières. Ça serait sa définition quoi.
Et alors du coup. Où est-ce qu'intervient notre subjectivité? Parce qu'au fond, si je vous comprends bien tous les deux, le réel, c'est quelque chose qui est objectif, point. Qui, comme une sorte d'objet qui se déploie, qui a au moins une direction. Je ne sais pas s'il y a une intention.
Non, il n'a pas d'intention. Selon Clément Rosset, le réel n'a pas d'intention, justement.
C'est ce qu'il distinguerait, justement, de la question du divin.
C'est ça, de la théologie ou des choses comme ça.
Mais alors, pourquoi est-il là plus...
Ça, là, on n'a pas la réponse à la question. Là, on reste effectivement... on bute à quelque chose. Et c'est là qu'interviennent justement les philosophes en disant « Oh là là, mais vous inquiétez pas, il y a un arrière-monde qui explique tout ça. »
Ça, c'est pour se consoler, ça.
On peut le penser. Ouais. On peut le penser. Après, ce qui est problématique, c'est les méfaits que peut avoir cette pensée d'un arrière-monde dans le sens de la culpabilité, par exemple. Parce que si j'ai été exclu du paradis à un moment donné, c'est que ça me rend coupable de quelque chose. Ou alors cette idée romantique finalement que mieux vaut attendre la mort avec une certaine gourmandise, puisque de toute façon ce que l'on vit ici est bien pâle par rapport à ce qui nous attend, ou par rapport à un âge d'or qu'il y a eu par le passé. Mmh. Et en fait, on vit dans le passé et dans le futur, mais on ne vit jamais dans le présent. Et le réel, c'est le présent, effectivement. C'est la présence du présent.
Oui, mais peut-être que le présent, c'est d'abord et avant tout le condensé du passé et la perspective du futur.
En tout cas, le présent, dès qu'on en parle, n'est plus du présent, comme on dit toujours. Oui. Hein.
Bon, je vous rappelle qu'on est autour de l'imaginaire.
Ouais.
Là, on sent bien qu'on a un petit peu envie de décoller, mais que cette articulation, peut-être, Olivier, est-ce que tu peux la reprendre entre le réel et l'imaginaire, justement ? Mais,
je crois que c'est exactement ce qu'on est en train d'éprouver en discutant, là. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive pas vraiment. Il ouais. Y a toujours un moment où on a beau élaborer tout ce qu'on peut, tout ce qu'on voudra, on est obligé soit de considérer que notre incapacité à aller plus loin, c'est-à-dire notre incapacité à dire le vrai, soit il nous faut à ce moment-là opter, je crois, hein, l'alternative, c'est d'opter pour une vérité qui nous serait donnée. Bon, c'est la tentative religieuse, parfois, pas toujours, mais souvent, la tentative religieuse qui est de donner un contenu à cette derrière cette barrière infranchissable, qui est la barrière métaphysique, donc en quelque sorte. Et je crois, n'importe quel être humain, nous sommes exactement à ce moment-là de devoir peut-être choisir ou rester en retrait de cette barrière. Je crois que c'est la proposition de Simon qui est de dire ça. On rencontre cet impossible-là, cet impossible à penser, cet impossible à comprendre, cet impossible à concevoir, cet impossible à dire, cet impossible... Voilà, global, absolu, en quelque sorte. Et donc, restons de ce côté-ci de la frontière du réel et profitons de cette réalité que nous avons, cette réalité qui est tissée à la fois de ces éléments de réel qui nous viennent et qui peut-être, effectivement, sont plus universels que culturels, tissés des symboles dont nous avons à notre disposition, là, de ce côté-ci de la frontière, pour dessiner... notre monde imaginaire, celui dans lequel on vit.
Alors moi, dans mon ressenti, mon ressenti était celui d'une sorte de sentiment d'impuissance par oui. rapport au réel. Et j'ai envie de dire tout simplement, moi, ça ne me plaît pas trop, ça. Ça ne me plaît pas trop parce qu'il me semble que l'expérience de tous les humains, c'est toujours... d'impliquer, de projeter leur propre subjectivité, leur désir de mettre du sens. Donc, est-ce que, finalement, l'imaginaire, par exemple, pourrait être une forme de combat contre l'inéluctable ou peut-être l'irreprésentable du réel ?
Sans doute, oui. C'est une conquête permanente. Je suis assez d'accord avec cette idée-là, si tu le penses comme ça, comme ouais. une conquête permanente, comme ouais. une extension... Oui. la plus grande possible à chaque fois, à oui. la fois pour l'humanité dans son ensemble, et là on pourrait parler de la science par exemple, mais pour chacun d'entre nous, aussi dans notre manière de vivre et de regarder notre propre vie.
Oui. Et j'ajouterais que ce que dit Clément Rosset s'applique au monde philosophique et pas du tout à la psychologie, etc., où il y a d'autres réalités qui sont en jeu. Attention, hein, c'est une parole de philosophe.
Alors, dis-nous un peu plus, là.
Dans le sens où la parole de philosophe, dans ce qu'il en dit, ne prend pas en compte, effectivement, peut-être toute la psychologie, le désir, les rêves, toutes ces choses-là. En tout cas, c'est pas qu'il ne prend pas en compte, mais il ne parle pas sur ce plan-là. Et c'est important, je pense, de comprendre sur quel plan on parle.
C'est-à-dire, il parle du monde des idées.
Oui, la philosophie, c'est ça, oui.
Ça peut être l'amour, un peu de la sagesse, et puis... Oui, mais Rado a bien dit, la philosophie, c'est d'abord quand même fait pour nous aider à vivre, pas simplement pour manier...
Oui, nous aider à vivre, mais... Quand il élabore des concepts tels que cela, me semble-t-il, il parle en philosophe, il ne parle pas en psychanalyste. Et non pas que la réalité soit différente pour ces deux personnes-là, c'est pas ce que je dis, mais il y a quand même des différences, des éléments qui ne sont pas forcément pris en compte d'un côté, qui sont pris en compte de l'autre, et qui changent les choses. De la même manière, quand Wittgenstein parle du langage, il en parle en logicien, et il sait bien que le langage, ce n'est pas uniquement ce qu'il dit. Mais que le langage est une autre réalité pour un psychologue ou pour le commun des mortels, tout simplement. Quoi.
Alors, est-ce que ce n'est pas le moment de... Parce qu'on avance un petit peu là, puis je pense qu'on va clore aujourd'hui autour de l'imaginaire. Je vous propose deux choses. D'essayer de reprendre, il nous reste quoi, une petite dizaine de minutes à peu près, de prendre quelques minutes pour réarticuler un petit peu la topique ou la structuration un peu lacanienne entre le réel, l'imaginaire... et le symbolique. Donc, comment s'articule ici le symbolique ? Et j'ai envie de vous proposer ensuite qu'on passe un tout petit peu de temps pour ouvrir l'émission suivante, où on s'est interrogé sur... on avait envie de s'interroger sur la place du rêve, par exemple. Parce que le rêve, c'est à la fois quelque chose dont on sent bien qu'il s'enracine dans une forme d'imaginaire, mais qu'en même temps, c'est un imaginaire qui nous échappe totalement, puisque... Ouais. Voilà, à part quelques rares personnes qui semblent être un peu capables d'orienter ou de peut-être cadrer un petit peu leurs rêves, voilà, ça nous paraît à la fois extrêmement intime, extrêmement intérieur et puis radicalement étranger en même temps.
Ouais, je pense que le rêve est quelque chose dont on peut dire que c'est éminemment réel, justement.
Alors, on reprend l'articulation entre ces trois espaces-là, ouais. Avec la dimension du symbolique, peut-être.
Oui, oui, mais justement, parce que le rêve est éminemment réel, sans doute. On l'associe à l'imaginaire, mais l'imaginaire est une opération de construction du monde. Le rêve, tout d'un coup, apporte les mêmes éléments, parfois dans le désordre, et construit un récit qui est à la fois, comme tu le disais, très intime, mais un peu étranger, parfois. C'était comme si un autre à l'intérieur parlait à notre place. Et c'est une expérience... un peu troublante, souvent très même difficile à comprendre. C'est pour ça que le rêve souvent demande à être interprété. Justement, l'interprétation du rêve, c'est une manière de recapter ce que tout d'un coup un réel psychique, hein, certes, on ne parle pas d'un monde d'objets, là, mais un réel psychique nous raconte de l'intérieur. L'interprétation, c'est le rapatrier dans notre imaginaire, c'est-à-dire dans notre monde compréhensible. Mm-hmm. Parce que l'imaginaire, c'est ça, c'est d'abord essayer de comprendre le monde. Hein. Même, on parlait dans une émission précédente du délire comme un imaginaire débordant, mm-hmm. mais le délire essaie de comprendre et de saisir le monde
de
le mettre en scène, et d'une manière souvent qui ne fonctionne pas très très bien, et c'est pour ça qu'il n'arrête pas de se développer jusqu'à s'effondrer, même à un moment, parce qu'il est trop important, etc. Bon, le rêve, en soi, puisqu'il nous échappe, puisqu'il nous résiste, et tant qu'il nous résiste, est du domaine du réel. On peut en conquérir un petit peu quelque chose, un petit peu comme on dit souvent que un travail psychanalytique consiste à reconquérir des espaces inconscients pour les rapatrier du côté de quelque chose d'admissible. Bon, après, c'est de l'inconscient, donc on n'y pense justement pas tout le temps, on n'y pense même jamais, mais il y a des choses qui retrouvent leur place parce qu'on fait un travail de reconstruction imaginaire, un récit, on met en récit comme ça. Et ce qui nous permet de mettre en récit pour le compte, c'est notre attirail symbolique. C'est-à-dire qu'il est impossible de mettre en récit si on n'a pas des mots, si on n'a pas une pensée, si on n'a pas tout cet appareil-là qu'on partage là entre nous, parce que nos imaginaires sont extrêmement dissemblables certainement, mais par contre nous avons la même langue, nous avons le même appareillage symbolique qui nous permet justement de construire ensemble des choses. Voilà, peut-être pour dire un mot sur ce qu'on appelle le système RSI, réel, symbolique, imaginaire, à propos du rêve et de la réalité. Le rêve et la réalité, c'est évidemment très différent, même si ce sont les mêmes matériaux qui sont dedans. Mais d'un certain côté, ça nous échappe.
Simon ? Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. On parlait du mythe tout à l'heure. Le mythe, c'est de l'imaginaire, mais à partir du moment où l'imaginaire devient langage, il devient quelque chose de réel, parce que le langage, lui, c'est quelque chose de tout à fait réel, concret. C'est de la matière, presque, le langage. C'est pas presque, enfin, pour moi, c'est vraiment de la matière. C'est du réel. Et quand l'imaginaire franchit cette frontière-là, parce que l'imaginaire, si ça reste un rêve de la nuit, et si je ne le raconte pas,
il disparaît.
Voilà. Il prend sa réalité à partir du moment où on va mettre des mots dessus, du langage dessus. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Olivier.
Bon, peut-être on se dit qu'on va repartir un tout petit peu après sur le rêve. Alors en même temps, le rêve est quelque chose d'extrêmement universel. Il semble bien que tous les hommes et femmes du monde rêvent toutes les nuits. On a des traces de rêves extrêmement anciens. À la fois, il y a des rêves qui ont été racontés dans les récits égyptiens, donc 2000-2500, en tout cas, peut-être même plus avant Jésus-Christ. Évidemment, il y a quelques rêves dans l'Ancien Testament qui sont des rêves. Voilà, on connaît ceux avec les vaches maigres et les vaches grasses, représentant ici des périodes. Voilà. Des périodes au moment des crues du Nil avec le pharaon. Voilà. Mais on peut aussi d'ailleurs l'entendre dans une dimension beaucoup plus symbolique et plus large. Est-ce que pour conclure, vous avez un petit mot comme ça à dire sur le rêve, dans ce que ça vous ouvre? On essaiera de reprendre. Moi, j'aimerais bien qu'on reprenne, parce que moi, personnellement, en tout cas, j'écoute des rêves peut-être entre 10 et 30 toutes les semaines depuis 40 ans. Ça ne veut pas dire que je suis toujours très doué pour comprendre les rêves, mais j'ai l'impression qu'en général, il y a quelque chose qu'on peut retrouver dans une. Il y a une structure du rêve, je crois. Il y a une structure interne du rêve et surtout, il y a un sens dans le rêve. Mais voilà, je vous laisse conclure.
Conclure sur le rêve, ça serait difficile, moi, plutôt introduire le rêve. Pour le dire comme ça. Au sens où, moi, je veux dire une chose un peu banale, mais Freud considérait le rêve comme la voie royale vers l'inconscient, c'est-à-dire une chance extrêmement importante de conquérir quelque chose de cet espace inconnu en nous. Mais je dirais que le rêve, c'est pas simplement le rêve nocturne, le rêve éveillé, la rêverie, ça aussi, ce sont des choses qui demandent à être regardées attentivement.
Simon ? Non, mais je pensais à, évidemment, le plan psychologique du rêve, et là, vous serez bien mieux placé que moi pour en parler, vous deux. Après, sur la rêverie, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Tu as cité Bachelard tout à l'heure.
Oui, évidemment.
Beaucoup de choses à dire, oui.
Et là, la rêverie, c'est quand même extrêmement, extrêmement lié à l'imaginaire. Hein.
Beaucoup voilà. plus que et le rêve en soi, justement. Ouais, c'est là où on peut faire des différences, bien sûr.
Tout à fait. Bon, on s'en tient là. Simon, merci. Olivier, merci. Et nous nous retrouvons le mois prochain avec toujours cette émission Parler pour ne rien taire et probablement une série de quelques émissions autour des rêves. Vous êtes sur Radio Grand Ciel et à bientôt, chers auditeurs. Au revoir.
Au revoir.
Thank you.